Et c'est bien vrai. C'est bon de pouvoir puiser notre force spirituelle et même notre force physique en Dieu qui est notre force. Il est notre force. Et nous l'avons rappelé ce matin à travers nos prières et nos actions de grâce. Jean, chapitre 15, verset 20. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Alors, bien sûr, ce sont des paroles de Jésus qui s'adressent en premier chef aux disciples. Mais combien de chrétiens de par le monde n'ont-ils pas aussi expérimenté ces paroles de Jésus-Christ ? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Tertullien, c'est un apologiste latin du IIIe siècle, écrivit ceci. Le fruit de victoire, c'est la gloire de plaire à Dieu. C'est la conquête de la vie éternelle. Nous perdons la vie, mais nous emportons en mourant ce qui fait l'objet de notre ambition. Qu'on nous attache à des poteaux pour nous brûler, ce sont les instruments de notre victoire. Condamnez-nous, dit-il en s'adressant aux juges. Tourmentez-nous, dignes magistrats. Écrasez-nous. Votre justice est la preuve de notre innocence. C'est pourquoi Dieu permet que nous soyons persécutés, mais vos cruautés les plus raffinées ne servent à rien. C'est un attrait de plus pour notre foi. Nous nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Et cette phrase qui est restée célèbre à travers les siècles, notre sang, le sang des martyrs est semence de témoins. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Alors, j'aimerais bien rappeler avec vous ce matin les persécutions que nous trouvons à travers du livre des Actes, où nous voyons l'Église naissante progresser et souffrir pour la cause de Christ. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien aussi rappeler quelques récits frappants qui ont caractérisé la longue histoire de l'Église durant laquelle des chrétiens ont aussi été persécutés. Et bon nombre de chrétiens authentiques et fidèles ont connu des moments de souffrance pour la cause de Jésus-Christ. Beaucoup ont dû souffrir pour leur foi. Alors on va rappeler tout d'abord l'exemple, comme premier fait saillant, lié à la persécution de l'Église primitive, dont l'Église de Jérusalem, l'emprisonnement de l'apôtre Pierre. On se souvient, en Actes chapitre 4, après avoir guéri un boiteux qui mendiait à la porte du temple, après le deuxième discours de l'apôtre Pierre, un message d'évangélisation qui a conduit 5000 personnes, 5000 âmes à se tourner vers Jésus, on voit que, au chapitre 1er et au verset 3, Pierre a été emprisonné. Pierre et Jean ont été emprisonnés. Nous pouvons lire versets 1 à 3 du chapitre 4 du livre des Actes. Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et puis au verset 18 de ce même chapitre, un petit peu plus loin, on peut lire « Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Et puis, alors que la croissance de l'Église connaît une expansion fulgurante, nous voyons au chapitre suivant que ce sont les apôtres qui sont l'objet, ou en tout cas victimes de la persécution des sadducéens et du souverain sacrificateur. On voit ça en Actes au chapitre 5, versets 17 et 18, qu'on peut peut-être lire rapidement. Actes chapitre 5, versets 17 et 18, « Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. » Les apôtres, à leur tour, victimes de la persécution, au chapitre 5 du livre des Actes. Et puis, jusqu'alors, bien, l'Église avait été épargnée par la mort d'un de ses fidèles. Mais le chapitre 7 apporte un tournant dramatique à l'histoire de, enfin plutôt à l'Église, à l'encontre de l'Église de Jérusalem, lorsque Étienne connaît le martyre. Étienne, c'était un des sept diacres qui avait été choisi pour épauler les apôtres dans leur tâche. C'était un homme qui exerçait un service bien plus grand que le simple service social, alors qu'il n'était, entre guillemets, que diacre. C'était un homme remarquable. La Bible, au chapitre 7, nous dit que c'était un homme qui était rempli d'Esprit Saint, rempli de foi, rempli d'Esprit Saint et rempli de puissance divine, par laquelle il opérait des prodiges et de nombreux miracles. En Actes chapitre 6, verset 5 et verset 8, on ne va pas les lire. Alors cet homme au témoignage percutant, cet homme au témoignage impactant, a été victime de faux témoins qui ont été soudoyés et qui l'ont accusé de blasphémer contre Dieu et de blasphémer contre la loi de Moïse. Alors, Étienne doit donc comparaître devant le Sanhédrin, le tribunal religieux juif, et c'est là qu'il va prononcer un discours sans équivoque, sans ambiguïté, reprochant aux membres du Sanhédrin leur aveuglement et leur endurcissement de cœur. Alors, en entendant cela, les membres du Sanhédrin deviennent rouges de rage, de fureur. Ils sont blessés dans leur orgueil. Étienne est rejeté hors de la ville et malheureusement, il est exécuté par lapidation, par des jets de pierre. Alors, cet incident a été l'amorce d'une persécution plus générale à l'encontre de l'Église primitive, à l'encontre de l'Église de Jérusalem. Et on voit au chapitre 8, verset 1, on peut l'afficher derrière, si tu veux bien, Alexandre. Saul, il était présent. Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, avant sa conversion, était présent et a approuvé le meurtre d'Étienne. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Alors la persécution se poursuit toujours dans le livre des Actes, et cette fois c'est au tour d'Hérode Agrippa. C'est le neveu d'Hérode Antipas qui est responsable de la mort de Jean-Baptiste. Et il devient, et cet Hérode Agrippa, le bourreau. C'est lui qui devient le bourreau, cette fois, de l'Église de Jérusalem, de l'Église primitive. Il a, sous sa responsabilité, sous sa conscience, le meurtre du premier apôtre, Jacques, ainsi que l'emprisonnement, le deuxième emprisonnement de Pierre. On voit ça dans Actes chapitre 12, verset 1 et suivant. Et c'est ensuite au tour de Paul et de Silas d'être à leur tour incarcérés comme Pierre l'a été avant eux. Au chapitre 16, versets 23 et 24, où nous pouvons lire cette fois. Actes 16, 23 et 24. Actes 16, 23. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci avait reçu cette recommandation et les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et leur mit les ceps aux pieds. Et bien sûr, on connaît la suite merveilleuse qui s'ensuit, où Pierre, de façon miraculeuse, suite aux prières ferventes qui montent en sa faveur, est libéré, délivré de sa géole, de sa prison. Alors, mis à part le Nouveau Testament, on a peu de récits dignes de foi qui décrivent la manière dont les apôtres ont été tués, sont morts suite à leur persécution. On sait que Paul, après de multiples emprisonnements, est mort martyr à Rome, sous le règne de l'empereur Néron. On sait aussi que l'apôtre Jacques, le fils de Zébédée, dont nous avons fait mention il y a un instant, est mort par l'épée. On sait aussi que l'apôtre Pierre est mort martyr à Rome, et selon la tradition, comme nous le savons, il serait mort la tête en bas. Alors, c'est vers l'an 64 de notre ère que commencent les persécutions massives de chrétiens. Tout s'est déclenché le 19 juillet, en l'an 69 donc, lorsque l'empereur Néron, qui était un pyromane, a voulu voir un gigantesque feu. Et pour ce, il a ordonné qu'on incendie la ville de Rome. Alors, l'incendie a duré pendant 6 jours et il paraît que la moitié de la population de Rome a été tuée par les flammes. Alors, bien sûr, il fallait trouver des coupables responsables de cet incendie. Et c'est comme ça que Néron et ses chers ministres ont désigné les chrétiens comme étant les coupables, comme étant les responsables de l'incendie de la ville de Rome. Alors, il s'en est suivi, suite à cela, une persécution qui s'est généralisée dans tout l'Empire romain. Et les chrétiens ont dû à souffrir de la persécution suite au fait qu'on les ait taxés comme étant les responsables de l'incendie de la ville de Rome. Et vous savez, l'historien Tacite, il relate dans ses annales de quelles atrocités les chrétiens ont souffert. Ils ont été brûlés vifs. Ils ont été plongés dans de la poix bouillante, c'est un genre de goudron, et allumés comme des torches vivantes. Ils ont été écartelés. Ils ont été jetés dans les arènes avec des lions. On leur a arraché la langue, des atrocités que nos frères et sœurs qui nous ont précédés ont rencontrés. Et tout cela parce qu'ils étaient chrétiens. Et malgré ces persécutions, les lieux de culte clandestins ne désemplissaient pas et le nombre de croyants augmentait et augmentait encore. Et c'est ainsi que se vérifie finalement la parole de Tertullien, le sang des martyrs et semences de chrétiens. On peut citer aussi comme autre exemple qui a jalonné le cours de l'histoire de l'Église, les martyrs de Lyon, vers l'an 170, avec cette jeune fille Blandine. Je pense que je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Blandine, dont Eusèbe de Césarée écrit... Après les fouets et bien d'autres tortures, elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau. Les païens eux-mêmes avouaient, poursuit Eusèbe, que jamais chez eux une femme n'avait souffert d'aussi grandes et d'aussi nombreuses tortures. Alors, la mort de ces martyrs a finalement fini par impressionner les Romains, qui, à leur tour, se sont aussi convertis en nombre. Alors, les empereurs se sont succédés, les persécutions aussi, avec quelques périodes de courtes accalmies. Et ce n'est finalement qu'en l'an 313, comme nous le savons probablement, que l'empereur Constantin a écrit un édit qui redonnait, qui rendait la paix à l'Église. Et en l'an 372, ou 392 plus précisément, l'empereur Théodose Ier le Grand, lui, a instauré l'Église chrétienne comme étant l'Église officielle dans tout l'Empire romain. Donc il y a du chemin qui a été parcouru depuis. Alors, on va faire un bond sur la ligne de temps et on va arriver au XIIe siècle. Et là, on arrive à un précurseur de la réforme qu'on appelle Pierre Valdois, qui a donné naissance à l'église vaudoise. Alors, lui, c'est un riche marchand de Lyon. Et il a pris à la lettre cette parole de Jésus qui s'adressait au jeune homme riche. « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Alors c'est ce qu'il a fait, il a nourri les pauvres, mais il s'est vite rendu compte que les pauvres avaient aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors il a commencé à traduire la Bible en français et à leur expliquer avec beaucoup de simplicité. Et finalement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont suivi Pierre Valdois, beaucoup sont devenus ses disciples, et on les appelait d'ailleurs les pauvres de Lyon, ou bien les Vaudois. Et voyant leur succès et leur réussite, les autorités de l'époque religieuses de l'époque, ainsi que le pape d'ailleurs, leur a demandé d'arrêter de prêcher. Ils ont refusé. Donc ils ont été persécutés, eux aussi. Ils ont été pourchassés, et ils se sont finalement enfuis. Ils ont quitté Lyon pour s'enfuir dans le nord de l'Italie, dans les vallées du Piémont. Et là, ils se sont organisés pour finalement, 4 siècles plus tard, rejoindre le mouvement de la Réforme. Alors, la Réforme, précisément aussi, lors de cette Réforme, beaucoup de chrétiens ont également été persécutés. Et donc, lorsque Luther est excommunié en 1521, Érasme écrit ceci, c'est l'humanisme hollandais, « J'ai peur que cette affaire ne se termine un jour par un carnage. » Et effectivement, l'humaniste de Rotterdam ne se trompe pas. La persécution qui s'annonce va durer près de 200 ans, près de 2 siècles. Et on peut citer comme fait le plus saillant, je vais dire, un des faits les plus saillants de cette persécution historique, le massacre que nous connaissons bien de la Saint-Barthélemy, qui a eu lieu en 1572, où il n'y a eu que des tueries, que des outrages, que des viols, que des pillages. Et d'après le martyrologue Crespin, les eaux de la Seine qui coulent à Paris étaient devenues rouges de par le nombre de corps ensanglantés qu'on y avait jetés, le nombre de cadavres remplis de sang qu'on y avait jetés. Les eaux étaient devenues rouges. C'est ce que rapporte le martyrologue Crespin. Et pourtant, le sang des martyrs est semence de chrétiens. En Belgique aussi, au XVIe siècle toujours, la Belgique a connu aussi ses martyrs. 2 moines anversois qui s'étaient ralliés aux idées de Luther, ont refusé de se rétracter et, à leur tour, ont été brûlés publiquement sur la grande place de Bruxelles. Jean Van Essen et Henri Vous. De nos jours, qu'en est-il ? On l'a rappelé. Est-ce que les chrétiens sont épargnés par la persécution ? On peut citer ce qu'un historien a dit et que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, sans doute. L'histoire nous apprend que l'homme ne retient rien de l'histoire. C'est un éternel recommencement. Bien sûr que les chrétiens sont encore persécutés aujourd'hui. Et on l'a rappelé avec beaucoup d'exactitude ce matin. Alors, quelques chiffres qui sont communiqués. Mais il les a déjà communiqués ce matin, à midi. Quelques chiffres qui sont proposés, dont l'organisme Porte Ouverte nous informe. Combien de chrétiens sont-ils persécutés dans le monde entre la période du 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023? Combien de persécutions de chrétiens y a-t-il eu? Combien de chrétiens ont-ils été persécutés ou bien discriminés dans le monde? Vous vous souvenez? 365 millions. Ça fait combien de fois le nombre d'habitants qu'il y a en Belgique? 365 millions de chrétiens sont persécutés, ont été persécutés entre cette fourchette, entre ces deux dates. C'est énorme. Un chrétien sur sept est persécuté dans le monde. On note effectivement une nette augmentation de la violence envers les chrétiens. Et cette violence, elle prend différentes formes. 4998, c'est-à-dire, pour ne pas dire 5000, chrétiens ont été tués durant cette période. Soit 13 chrétiens ont été tués par jour durant le 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 13 chrétiens par jour ont été tués. 14 766 églises ont été ciblées, dont 10 000 en Chine. 4 125 chrétiens ont été détenus, dont la moitié en Inde. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria, par la milice extrémiste Boko Haram. 3 500 kidnappings au Nigeria. Alors, quant au top 10, si je puis dire, des pays où il est le plus difficile de vivre sa foi chrétienne à cause de l'oppression, regardons sur le site Porte Ouverte et on découvrira. Bien sûr, il y a la Corée du Nord en premier lieu. Et non pas à cause de musulmans extrémistes, mais à cause de l'oppression communiste. En deuxième lieu, c'est la Corne de l'Afrique, la Somalie. Là, à cause de l'extrémisme islamique. Et puis on trouve la Libye, l'Érythrée, le Yémen, beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie, le Nigeria, le Pakistan, le Soudan, l'Iran ou encore l'Afghanistan. Toutes ces persécutions, malgré l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, qui nous dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Et malgré cela, on persécute les chrétiens. Alors, les exemples contemporains, eh bien, on en a rappelé quelques-uns ce matin, mais il y en a d'autres. Et je peux peut-être citer, au Pakistan, 136 jeunes filles ont été enlevées et forcées de se convertir à l'islam en 2023. En Ouganda, un pasteur qui a conduit 3 musulmans à Jésus a été tué dans un incendie, ciblant sa maison. Sa femme et ses 2 enfants âgés de 7 ans et de 4 ans ont été tués dans l'incendie avec lui en octobre 2024. C'est tout récent. Au Nigeria, encore, 4 personnes, dont au moins un chrétien, ont été décapitées le 24 octobre de cette année. Un homme armé, dans une vidéo, a déclaré vouloir exécuter tous les infidèles. Et puis, en Angola, un missionnaire envoyé par la CIM, la CIM USA des États-Unis, avec son épouse et ses 5 enfants, a aussi été tué. Ça faisait 3 ans qu'il était là, en Angola, et qu'il parlait de Jésus à la population. Il a été tué. Alors, pour conclure, on peut rappeler ces paroles de Jésus. S'ils vous ont persécuté, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et certains comprennent sans doute mieux que d'autres ces paroles de Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais heureusement, malgré l'acharnement du diable à l'encontre de l'Église, à l'encontre du corps du Christ, Jésus a dit en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. » Et Jésus continue encore aujourd'hui à bâtir son Église jusqu'à son prochain retour. Alors en considérant le nombre de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés dans le monde, est-ce que nous réalisons la grâce et le privilège dont nous bénéficions de pouvoir vivre notre foi en toute liberté? Quel privilège! Alors la question qu'on peut se poser, la question pratique qu'on peut souligner, c'est: quelles sont pour moi ou quelles sont pour nous les implications pratiques de cette prérogative, de cette liberté dont nous jouissons? Alors, j'en ai relevé 4 ou 5. Tout d'abord, et cela coule de source, je pense que, et nous l'avons fait déjà en partie ce matin, je pense qu'on peut faire preuve de reconnaissance en remerciant Dieu pour les conditions qui nous sont favorables pour pouvoir vivre notre foi chrétienne. Remercions le Seigneur, soyons-lui reconnaissants. Merci Seigneur parce que nous pouvons être et vivre notre foi, pleinement notre foi, dans un pays où nous sommes libres de le faire. Et puis ensuite, en considérant encore ceux qui témoignent de leur foi au risque de leur liberté et parfois même au péril de leur vie, ne devrions-nous pas profiter de ce confort que nous avons pour davantage propager la bonne nouvelle. Et je salue ici l'équipe d'évangélisation qui consacre beaucoup de son temps et de son énergie pour distribuer des traités ici sur la place et encore récemment au cimetière où beaucoup de personnes ont reçu un petit dépliant dans lequel ils sont susceptibles de trouver l'espoir. C'est d'ailleurs le titre du petit traité du dépliant. Trouver, c'est pas trouver l'espoir, non, c'est irez-vous au ciel. Enfin, il y avait les deux. Alors, autre implication de cette liberté, ne devrait-elle pas aussi nous donner des ailes pour venir aux réunions qui sont organisées par l'Église? Nous bénéficions d'une liberté qui est là, est-ce que nous en profitons? Tout en sachant que dans certains pays, malgré les interdits, beaucoup de chrétiens se réunissent de façon clandestine, cachés, en cachette, pour se rendre au lieu de réunion, parce qu'ils savent que c'est là où se trouve la bénédiction, parce qu'ils savent que c'est là où se trouve la présence de Dieu. Et ils sont ensemble. Et le fait d'être ensemble et de prier ensemble rapporte force, secours et allégresse. Alors, autre implication, les chrétiens, on les a vus. Pour la plupart d'entre eux, ceux qui sont déplacés en l'occurrence, ils vivent dans une extrême pauvreté. Alors ils ont besoin de nous sur le plan financier. Considérons l'importance aussi et la responsabilité que nous, chrétiens, les plus nantis, nous avons de les soutenir sur le plan financier. Il y a des œuvres chrétiennes qui sont fiables et pour lesquelles nous pouvons donner en leur faveur. Et puis, une dernière implication, et non des moindres, et nous l'avons rappelé ce matin aussi, le contexte favorable dans lequel nous vivons ne devrait-il pas nous amener à redoubler de ferveur dans l'intercession en faveur de ceux et celles, de ces millions de chrétiens qui sont dans différents coins du monde en train de souffrir à cause de leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous redoublons de ferveur, d'enthousiasme, dans l'intercession en faveur de ces frères et sœurs qui connaissent tant de difficultés, tant de souffrances, tant d'épreuves, tant de persécutions? Est-ce que nous pensons à les soutenir dans la prière et dans l'intercession? Alors, je termine par là. Que répondrons-nous à Dieu si un jour il nous demande, il nous pose cette question: qu'as-tu fait de ta liberté? Qu'as-tu fait de ta liberté? As-tu mis au profit de ma gloire et de mon œuvre la liberté dont tu bénéficiais? Que Dieu nous donne de pouvoir considérer le privilège immense que nous avons de vivre dans un pays libre jusqu'à ce jour, comme le rappelait par ailleurs Francis dans sa prière tout à l'heure. Nous sommes privilégiés, frères et sœurs, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Beaucoup parmi nos frères et sœurs, sur la surface du globe, connaissent des moments de persécution, de souffrance intense, parce qu'ils ont choisi de suivre et de parler de Jésus.